au service de l'humanité, il a parfaitement montré comment, à partir de la connaissance indispensable des ressources, des risques et d'autres aspects des géosciences, on devait s'interroger en termes sociaux, en termes économiques, en termes spatiaux, autrement dit en termes géographiques, sur l'usage de ces ressources, sur les conflits aussi liés à leur usage, et sur la géopolitique finalement, et combien également la géographie finalement, qui s'interroge sur ses relations, sur l'aménagement des territoires, était partie prenante dans cette approche et intimement liée à toutes les données qu'il a présentées. Autrement dit, nous sommes bien, alors que nous sommes géographes, une science sociale, nous sommes bien partie prenante de ces questions. Lorsque nous avons discuté de la présentation de ce colloque, nous nous sommes aperçus qu'à la fois il y a, et vous êtes tous ici sur cette position, je pense, un très grand intérêt pour les sciences et les géosciences, mais qu'il y a aussi, dans le même temps, des discours extrêmement négatifs sur la science, sur le progrès, et voire sur les géosciences, pensons à tout ce qui tourne autour de l'extraction des ressources naturelles, du pétrole, etc. Et c'est la raison pour laquelle il m'est revenu de réfléchir un petit peu à ces approches, à cette science source de progrès pour l'humanité, source de mieux-être pour les hommes, mais avec un point d'interrogation aujourd'hui, puisqu'on se demande encore si l'on peut utiliser ce terme de progrès sans paraître tout à fait dépassé. Les discours dominants insistant généralement davantage sur les effets négatifs de la science, les effets négatifs du progrès, voire même jusqu'à l'idée du retour à des modes de vie passés hors de la science et du progrès. Pour répondre à cette interrogation, le retour à l'histoire est nécessaire, et vous savez que tout géographe a un volet d'historien en lui. Donc, le retour à l'histoire est nécessaire et il paraît indispensable pour mettre en perspective cette conception de la science, qui aujourd'hui a évolué vers du religieux, vers du sectaire parfois, et sur laquelle donc il faut que nous nous arrêtions. Je voudrais bien qu'ici, et notamment ceux qui ne sont pas géographes, ne se méprennent pas sur mon discours. Je ne vais pas faire un discours anti... je ne vais pas remettre en question toute une série de connaissances sur la planète, sur toute une série de dysfonctionnements dus à l'homme et dus aux sociétés. Je crois que tout géographe en a parfaitement conscience et travaille aussi bien sur la gestion, l'urbanisation et ses conséquences parfois très négatives, sur l'agriculture et la surexploitation des sols, sur les pollutions. Mais mon propos est autre, il est destiné à faire réfléchir à ces discours systématiquement dramatisés, à ce rôle aussi des médias sur lequel il faut réfléchir quand on est enseignant. Je commencerai donc par rappeler que les sciences sources de progrès sont devenues aujourd'hui pour beaucoup les sciences sources de problèmes et voire même des sciences à condamner. Je rappellerai qu'au XVIIIe siècle, avec l'époque des Lumières, se manifeste un début d'amélioration de la condition des sociétés. Alors notamment en Angleterre, bien sûr, en France et on va dire en Europe occidentale. Cela tient indiscutablement au développement encore lent, mais au développement de la science et du progrès technique. Je prendrai un exemple qui est celui de la santé pour envisager les progrès qui se dessinent alors. Bien sûr, l'époque des Lumières est une période clé, ce qui ne veut pas dire, comme d'ailleurs pour toutes les questions touchant à l'usage des ressources en Europe, que ce soit un tournant absolument, une coupure majeure. Rappelons que dès le XIVe siècle en Italie, lors de grandes pestes, des mesures sont prises pour surveiller la provenance des marchandises, éviter par exemple qu'on ne revende des habits qui avaient porté des pestiférés, qu'on crée des corps de fossoyeurs, qu'on désigne parfois dans certaines villes italiennes des médecins pour la surveillance sanitaire de la ville. Mais le XVIIIe siècle est incontestablement un tournant. En France se crée la Société royale de médecine en 1776 qui met à l'étude la question de l'hygiène publique déjà, qui insiste, reprenant là, retrouvant un courant, définissant un courant néo-hippocratique, considérant qu'une maladie naît dans des conditions environnementales précises et considérant donc qu'il faut connaître ces conditions de l'environnement. Pour beaucoup d'historiens, la baisse de la mortalité qui s'affirme au XVIIIe siècle est bien la connaissance d'une politique hygiéniste qui commence à se mettre en place. Par exemple, le drainage des eaux usées, en particulier le drainage des douves, des eaux stagnantes, en particulier autour des villes. On considère aussi que l'eau doit circuler, qu'il faut nettoyer les maisons, renouveler l'air dans les logis, lutter contre les insectes, évacuer les ordures des villes. N'oubliez pas ce qu'étaient les villes au XVIIIe, au XIXe siècle et pratiquement jusqu'au début du XXe siècle. Cela permet aussi de rappeler les progrès obtenus depuis. Notez aussi que les progrès qui s'amorcent au XVIIIe siècle concernent la ville et exclusivement la ville où se diffusent les idées modernes. Ces valeurs ont été portées par la Révolution française, ce qui a facilité leur diffusion, l'organisation d'un mouvement médical plus généralisé, favorable à l'hygiénisme. Et dans le même temps, XVIIIe siècle, pour des raisons de science et de technique, s'affirme le progrès de l'agriculture qui commence à augmenter ses rendements. La santé s'améliore aussi parce que l'alimentation est un peu meilleure, parce qu'il y a une meilleure circulation, et vous voyez le rôle des transports déjà, des céréales notamment, parce qu'il y a augmentation de la production dégageant des surplus, parce qu'également on remplace les orges par la pomme de terre, etc. Comment lit-on ces améliorations dans l'histoire? Eh bien au moyen d'un indicateur qui agrège toute une série de données, notamment concernant l'environnement, concernant les soins, concernant la santé, l'alimentation, c'est l'espérance de vie. L'espérance de vie augmente indiscutablement à partir du XVIIIe siècle et la mortalité infantile diminue. Il est intéressant de noter que cette mortalité infantile passe de 36%, 360 pour 1000, en 1670 en Europe, à 260 pour 1000, 26%, en 1789. Je rappellerai, je suis là, les travaux des historiens spécialistes de la question, Patrice Bourdelet notamment, dans un ouvrage remarquable, Les hygiénistes, enjeux, modèles et pratiques, de 2001. Je rappellerai qu'au milieu du XVIIIe siècle, la moitié des enfants mouraient avant l'âge de 10 ans sur une cohorte d'enfants donnés, et la moitié des femmes mouraient avant 30 ans pour des raisons liées essentiellement aux accouchements. L'espérance de vie en France en 1740 est de 25 ans. Et pourtant, on vit dans la nature, on devrait être dans des conditions optimales, hein, si on voit les arguments d'aujourd'hui. Contre 80 ans aujourd'hui, hommes et femmes confondus, je ne détaille pas évidemment. À la fin du XVIIIe siècle, l'espérance de vie atteint 30 ans. Puis en 1810, 37 ans. Pourquoi ce saut? Eh bien parce qu'entre-temps, on a commencé à utiliser la vaccination, et en particulier la vaccination contre la variole. La hausse s'est poursuivie de façon plus lente au cours du XXe siècle, du XIXe siècle. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des guerres, les guerres napoléoniennes et la guerre de 1870, et puis aussi parce que les effets d'une industrialisation et du travail dans les mines telles que vous les connaissez, je vous renvoie à Zola, ont abouti évidemment à des effets très négatifs sur les populations, au moins dans certaines régions françaises. 2004, la mortalité infantile, pour vous donner un ordre de comparaison, pour ceux qui l'auraient oublié, 3,9 pour 1000 en France. Rappelez-vous les 360 pour 1000 précédemment évoqués. Cependant, en 1960, à Asie du Sud-Est, alors ce sont des chiffres très globaux hein, sur lesquels on peut discuter, mais c'est des ordres de grandeur, la mortalité infantile reste de 146 pour 1000. Elle est en Afrique subsaharienne de 170 pour 1000 à la même époque, et en diminution quand même, puisqu'aujourd'hui c'est autour de 130 pour 1000 pour cette Afrique subsaharienne. Dès le XVIIIe siècle, la foi dans la technique et l'expérimentation génératrice de progrès se répand dans l'Europe entière. Et je rappelle là les travaux tout à fait remarquables et à relire de Condorcet, qui souligne dans son ouvrage « Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain » l'idée de perfectionnement de l'homme et de la société sous l'influence du savoir. Cette conception moderne est intéressante parce qu'elle s'affranchit aussi d'une vision religieuse de la catastrophe et de la crise, considérée jusqu'ici comme envoyée par Dieu ou le diable, comme punition pour des hommes qui ont dérogé aux lois de la religion notamment. L'époque des Lumières laïcise en quelque sorte la catastrophe. Alors pour aller très vite, je dirais que l'idée est que la science et la technique ont fait progresser la condition humaine, évidemment dans les secteurs que j'ai dit, c'est-à-dire en Europe, et dans quelques secteurs de l'Europe, vers un mieux-être, un mieux-vivre. Et cette idée perdure durant le XIXe siècle et encore au cours du XXe siècle, avec notamment donc, les éléments très tangibles que j'ai évoqués, l'espérance de vie. La mise en question de la science, pourtant, s'amorce, elle n'est pas nouvelle, elle commence aussi à l'époque des Lumières, c'est une sorte de médaille à deux volets. Dès cette époque, on s'inquiète sur le changement, on s'inquiète sur la croissance démographique, on s'inquiète sur la pression accrue sur les ressources. Je ne citerai, parce que je l'ai déjà fait souvent devant certains d'entre vous au moins, que les travaux auxquels on peut se référer de Malthus, les travaux des géographes comme l'école allemande de géographie, Ratzel, qui écrit sur l'économie de pillage. J'insisterai sur le fait que désormais, chez un certain nombre de penseurs du XIXe siècle et XXe siècle, la société est rendue responsable de tous les maux affectant la planète. Maux, évidemment, au sens où on peut l'entendre. L'emprise sur le milieu est dénoncée parce que la science, la technique, ont accentué cette emprise. D'où évidemment la mise en question de la géologie avec le prélèvement des ressources non renouvelables, de la chimie, de la physique avec l'industrialisation et les pollutions, les modifications agricoles, etc. L'homme est désormais présenté comme un apprenti sorcier. Les sociétés sont rendues, je l'ai dit, responsables des crises qui affectent la planète tout entière. C'est l'idée de crise généralisée. Et je rappelle ce qu'écrivait un grand personnage de cette maison, Jean Dorst. L'homme est apparu comme un ver dans le fruit, comme une mythe dans une balle de laine. Et Hans Jonas, que beaucoup d'entre vous connaissent, philosophe, 1903-1993, dont je reparlerai, considérait que la nature ne pouvait prendre de plus grands risques qu'en laissant naître l'homme. On assiste donc à la mise en accusation systématique de la science et du progrès, la technoscience devenue, et le terme est cité, une barbarie de notre époque. C'est en gros la position du philosophe allemand Martin Heidegger, qui a inspiré d'ailleurs les théories nazies, et qui dénonce la science, la technique et plus largement l'idée de progrès, envisagée par cet auteur, et on peut discuter bien sûr, tout n'est pas faux, envisagé essentiellement, je cite, comme un instrument alimentant les passions destructrices et les désirs de domination. Une telle position est aussi celle défendue par Hans Jonas, que j'évoquais, disciple de Heidegger, et très connu pour la mise en évidence du principe de précaution. Or, Jonas insiste sur la méfiance nécessaire contre la société moderne, contre la toute-puissance de la technique. C'est lui qui crée l'heuristique de la peur et montre que notre situation est telle qu'il faut recourir au sacré, lequel ne peut être atteint que grâce à la crainte et à la peur de l'homme. Il faut, selon Jonas, prêter l'oreille à la prophétie du malheur. Alors, il est intéressant aussi de constater que face à cette inquiétude qui monte et qui a des fondements, je vais en dire deux mots, on va voir naître un autre paradigme, c'est le paradigme de la nature. Alors, je disais que cette prophétie du malheur, elle n'est pas sans... elle doit être rattachée aussi à quelques éléments clés du XXe siècle, quelques malheurs, entre guillemets. Bien sûr, la découverte, grâce aux satellites, de l'espace fini sur lequel nous vivons, est relativement réduit, surtout à l'échelle de l'univers. La deuxième chose, c'est l'importance de la bombe atomique et les peurs qu'elle a fait naître, avec quelques raisons aussi, sur la destruction possible de l'homme et de l'humanité. Et puis, c'est évidemment Tchernobyl et un certain nombre d'autres grands événements tout à fait dramatiques et liés à l'industrialisation, aux pollutions notamment. Cela s'accompagne, je vous l'ai dit, il faut trouver des solutions pour pallier ces inquiétudes. On va donc faire émerger un nouveau paradigme, celui de la nature, qui finalement est opposé systématiquement, chez certains au moins, opposé à la science, à la technique et au progrès. Et on va insister aussi, dans le même temps, je l'ai dit, sur la dénonciation de la croissance démographique. Hans Jonas parle de prolifération de l'humanité en raison des succès biologiques. Et je crois que le terme de prolifération s'inscrit dans une position anti-humaniste évidente, qui était celle d'un autre auteur dont je dirai deux mots tout à l'heure, Ehrlich, et celle aussi défendue par d'autres personnages très médiatiques, comme le commandant Cousteau, qui indiquait, il y a quelques années, qu'il y avait plusieurs centaines de millions d'habitants de trop sur la planète. Je crois que ça, c'est à méditer. Donc, par un glissement complexe, la nature devient donc un objet central des préoccupations, un objet central qui... pourquoi ? Eh bien, je crois, il me semble que c'est notamment parce qu'elle est perçue justement par certains comme le lieu des permanences, comme le lieu qui n'évolue pas et auquel il faut se raccrocher parce que précisément c'est le lieu des permanences. Et là, on rejoint toute cette idée du temps dont M. Dercourt nous a bien montré qu'il était beaucoup plus complexe que le temps géologique, qui évidemment est fondamental. Mais il y a aussi le temps des sociétés, il y a le temps de l'homme, et ces trois temps, notamment, ne se recouvrent pas forcément. Alors, cette nature qui devient le centre des préoccupations, c'est une nature victimisée qui suscite des discours religieux, dont le fameux mythe de Gaïa n'est qu'un exemple. Elle est barrée de vertus humaines, la mère nature se lit comme une divinité bienfaisante. On développe souvent une conception de la nature romantique, hérité de Jean-Jacques Rousseau, la belle nature, le lieu anti-stress, la nature saine, vierge, pure, en équilibre, et que les sociétés perturbent, évidemment. Cette vision est une vision totalement urbaine, jamais de la campagne. Et cette vision totalement urbaine, elle est déjà développée dans les termes que j'évoque par les membres très sélects et très urbains du Club Alpin français et du Touring Club de France à la fin du XIXe siècle, quand ils insistent pour classer un certain nombre de territoires des Alpes plus à leur fin personnelle que pour le bien-être de l'humanité. Les réponses à de telles conceptions conduisent dès le XIXe siècle aux États-Unis notamment, à des solutions qui sont la protection de la nature contre les exactions humaines, conception américaine du XIXe siècle et conception marquée du sceau du puritanisme anglo-saxon. Ces approches se lisent, là je vais aller très vite, sous la plume de Thoreau, de John Muir, qui sont des naturalistes d'origine écossaise dans le cas de John Muir, explorateurs qui tissent avec la nature et la montagne notamment un lien très fort qui, dit John Muir, associe l'amour de la nature, les aspects esthétiques et la dimension spirituelle, et j'ajouterai la dimension politique, parce que cette reconnaissance de ces espaces de nature aux États-Unis, c'est aussi une façon de créer un bien commun de la nation américaine et de fonder cette nation américaine en mal de fondement, si je puis dire, de base, alors que l'Europe, elle, a tous les monuments et tout le passé des hommes extrêmement longs. Il s'agissait, dit John Muir, de faire quelque chose pour la nature sauvage et pour rendre la montagne heureuse. La protection donc contre l'avancée de la civilisation dans les régions américaines de l'Ouest à la fin du XIXe siècle s'enracine indiscutablement dans le sacré. Je vous ai dit que c'est une vision puritaine qui oppose la nature au lieu de la création divine à l'homme, créé aussi par Dieu, mais par essence mauvais. C'est le point de départ de la politique de protection de la nature, de création des parcs, pour lesquels je ne porte pas de jugement particulier, parce que je pense qu'il y a sûrement des parcs qui se justifient, mais qui ont aussi provoqué, au nom de la protection de la nature et des éléments que j'ai évoqués, qui ont provoqué le déplacement des populations, ces fameuses populations déguerpies telles qu'ils se définissent en Afrique. Et encore il y a quelques années, il y a une dizaine d'années seulement, pour les parcs de l'Est du Québec. La mise en question de la science et le retour aux religieux sont aussi le fait aujourd'hui d'un courant extrêmement inquiétant que l'on a évoqué tout à l'heure, c'est le courant du créationnisme scientifique, dont l'idée de base est que les textes religieux sont, parce qu'ils sont révélés par Dieu, sont considérés comme révélés par Dieu, et sont considérés comme scientifiques. Alors je vous rappelle l'histoire courte de la Terre, 6000 ans, etc. Je rappellerai qu'en 1963, a été créée aux États-Unis la Société de la recherche sur la création, et à San Diego, un institut pour la recherche sur la création a également vu le jour, que ces organismes ont énormément d'argent et qu'ils produisent beaucoup de publications d'ouvrages, tous très luxueux et envoyés parfois très largement. En France, ce courant est moins puissant qu'aux États-Unis, mais il existe néanmoins un mouvement fondamentaliste créationniste avec la revue « Signe des temps » et le cercle d'études scientifiques et historiques. Et de temps en temps, l'apparition de ces théories dans les grands journaux nationaux, notamment 26 octobre 1991, Le Figaro défendait des idées créationnistes, peut-être sans en comprendre la portée, mais avec les titres choc, Charles Darwin, son procès s'ouvre, et il faut rappeler qu'un certain nombre de scientifiques français sont assez proches de ces théories, donc ils ne sont pas complètement à oublier dans cette remise en question de la science et dans ces nouvelles approches. Alors, finalement, comment se traduit cette évolution? Et pour nous, enseignants, faut-il la comprendre? Bien, elle va se traduire, et ce sera mon deuxième et dernier point, par le catastrophisme et la dramatisation systématique, expression des nouvelles approches de la nature et de la mise en question de la science. Depuis les années 1960, les discours catastrophistes et dramatisés sur l'impact des sciences, l'action des hommes sur la nature, n'ont pas cessé. Certes, ce ne sont pas des discours nouveaux. Dès l'an 1000, il y a eu énormément de grandes peurs, et l'histoire est traversée de grandes peurs, les historiens le savent bien, qui ont des origines variées. Donc, ce qui se passe à la fin du XXe siècle n'est pas tout à fait nouveau. Mais enfin, on peut considérer, reprenant là une phrase de Ulrich Beck, le sociologue spécialiste des risques, que chaque année est considérée comme celle de tous les dangers. Je ne reviendrai pas sur les perspectives bien connues du Club de Rome et du rapport Meadows, qui envisageait un avenir dramatique pour les dernières années du XXe siècle. Je rappellerai les travaux de Ehrlich, que j'ai évoqué tout à l'heure, sur la croissance démographique et la fameuse bombe P. On parlait alors d'apocalypse démographique, considérant évidemment les pauvres comme les plus dangereux, parce que source des dégradations les plus importantes. Je vous en rappelle l'ouvrage bien connu aussi, La tragédie des biens communs de l'humanité, de Hardin. Ehrlich prévoyait qu'en 1980-1989, c'est très précis, quelques 4 milliards d'hommes, dont 65 millions d'Américains, périraient dans la grande hécatombe. Et Gunther, autre chercheur américain, écrivait à la même époque que les démographes s'accordent unanimement sur l'échéancier funeste suivant. En 1975, des famines étendues apparaîtront en Inde. Elles progresseront jusqu'à toucher, en 90, l'ensemble du sous-continent indien, du Pakistan, de la Chine, du Moyen-Orient, de l'Afrique. De tels pronostics continuent, et ils continuent aux oreilles de nos élèves. Ils continuent, y compris relayés par les médias. Je ne reviendrai pas sur les pronostics du niveau marin, qui ne sont pas tout à fait d'accord avec M. Lardot, y compris chez des gens très primés. Je ne reviendrai pas sur les discours concernant les pluies acides et les bandes à aller chercher, c'est un très beau dossier à faire, les discours et les discours des médias sur les pluies acides et leurs effets dans les années 80, selon lesquels il n'y aurait plus aucune forêt allemande et en Europe centrale en 1990. Mais je remarquerai que le 14 mars 2008, la revue Esprit n'a pas fait autre chose que cette dénonciation assez surprenante autour du philosophe Jean-Pierre Dupuis, philosophe, auteur du catastrophisme éclairé. Il choisit, le groupe autour de Jean-Pierre Dupuis choisit une année de référence pour dénoncer tous les dysfonctionnements et tout ce qui va nous arriver, c'est 2040. Parfois c'est 2030, parfois 2050, là c'est 2040. Et il dit, nous avons choisi 2040 parce que cette année devrait marquer un tournant dans de multiples domaines avec une possible inversion du rapport de l'histoire. Et l'analyse proposée est lourde de présupposés idéologiques puisque Jean-Pierre Dupuis dit, l'idée de catastrophe semble désormais occuper la place que remplissait hier l'idée de révolution. Et ce même auteur d'évoquer l'aveuglement devant l'apocalypse. Il est amusant de constater que ces discours catastrophistes, qui ne datent pas d'hier, peuvent en quelques années développer des points de vue radicalement opposés. Si vous retrouvez les travaux, les présentations des médias dans les années 70-75, ce qui était dénoncé comme un drame majeur à venir, c'était le refroidissement de la planète, l'entrée dans la période glaciaire. Puis ont suivi les inquiétudes pour la biodiversité, avec quelques raisons, des inquiétudes sur le réchauffement climatique, mais avec des chiffres, avec des données absolument incroyables et auxquelles nous avons tous à faire face. Novembre 2006, Science et vie pour adolescents, la bombe climatique. Novembre 2007, le nouvel OBS, l'alerte climatique. Science et vie, mars 2007, le climat, l'ennemi numéro un. Jusqu'au Figaro, il y a un mois, qui faisait sa une sur la première guerre écologique de la planète, la guerre du Darfour, due au réchauffement climatique. Donc, je crois que ça méritait une petite réflexion. Alors, pourquoi de tels discours qui sont en filigrane la contestation systématique de la science et parfois de l'humanité ? Je crois que ces discours ne sont pas gratuits. Qu'en période de difficultés économiques ou politiques, il est toujours bon d'avoir un petit drame potentiel à ressortir. Et en tout cas, c'est ce que souligne Naomi Klein dans son ouvrage paru en 2007 à Londres, qui insiste sur cet aspect-là. Il y a eu à Genève, en 2007-2008, une très intéressante exposition qui s'appelait « Scénario catastrophe » et qui soulignait bien cette instrumentalisation de la catastrophe par des acteurs aux motivations variées. La menace est un outil de pouvoir très efficace. En son nom, on peut réduire la liberté des personnes, l'exposition de Genève le montrait très bien, et certains groupes de pression, voire certaines personnes, scientifiques ou autres, peuvent asseoir leur pouvoir. La diffusion d'informations anxiogènes est un élément très médiatique, qui est très utile pour l'audimat, beaucoup plus que rappeler les progrès de l'humanité ou le mieux-être de certains, en tout cas. Je rappellerai à cet égard que les experts de l'US Army se fondent sur le discours catastrophiste actuel pour produire un rapport certifiant que les menaces climatiques auront un tel impact pour la sécurité nationale des États-Unis qu'il faut augmenter de toute urgence les nouveaux moyens financiers pour l'US Army. et on pourrait évidemment multiplier ces exemples. Il faut se rappeler que ces discours profitent à différents acteurs qui sont très variés, hein, pas toujours les mêmes. Ce peuvent être des États, je pense à certains États du Sud qui, grâce à de tels discours, peuvent obtenir des financements de la Banque mondiale, etc. Je pense à certaines ONG, je pense, pourquoi pas, à des laboratoires de recherche, à des firmes, etc. En tout cas, il faut lire ces discours à l'aune d'une analyse critique et il faut se demander, comme le faisait la revue Diplomatie en janvier 2008, à qui profite le crime. Cette instrumentalisation des discours est d'autant plus facile que nous sommes dans ces géosciences, comme l'a bien montré Jean-Marc Lardot, dans le domaine de l'incertitude et dans le domaine de la complexité. Et qu'on peut absolument instrumentaliser toutes les données chiffrées que l'on a, auxquelles on a tendance souvent à accorder beaucoup de poids, mais je l'ai souvent dit, et que les géographes me pardonnent ici, pourquoi les chiffres sur la surface forestière varient, peuvent varier de 1 à 30, voire de 1 à 100 ? Pourquoi les chiffres sur la déforestation peuvent varier à peu près dans les mêmes proportions ? Eh bien, c'est parce qu'on ne définit pas bien, on n'arrive pas à définir de façon claire ces objets. Pourquoi des espaces désertifiés eux-mêmes peuvent donner lieu à des chiffres extrêmement variés, utilisés dans un sens ou dans l'autre, pour dire que tout va bien ou que tout va mal, eh bien parce que justement ces données sont très difficiles à définir et qu'il n'y a pas une vision globale évidemment, un accord global sur ces définitions. Finalement, la dramatisation conduit aussi à envisager des solutions autres que scientifiques. Et aujourd'hui, on en est parfois là, je ne parle plus du créationnisme, mais je voudrais rappeler deux choses. C'est qu'une vision trop catastrophiste aboutit aussi à laisser la population penser qu'il n'y a rien à faire et que donc il n'y a qu'à subir. C'est contre-productif en termes didactiques. Et l'autre idée, c'est, je vous disais, que ça mène à un retour du religieux. Cela mène à un retour aussi à des formes d'irrationalité. Je pense par exemple à des comportements qui vont de médecine douce ou naturelle, bon, qu'est-ce que c'est, jusqu'au paranormal et au-delà, donc jusqu'aux sectes de toute nature. La raison recule indiscutablement devant l'émotion et le religieux. Alors pour conclure, que conclure de cette analyse simpliste et rapide, certes? D'abord que la catastrophe annoncée et la crise doivent être utilisées pour faire réfléchir, attirer l'attention, et plus qu'attirer l'attention, faire réagir les décideurs sur leurs pratiques de gestion, sur les modes d'aménagement de la planète, sur l'utilisation des ressources. Cela doit susciter réflexion, et vous voyez bien tout l'impact qui peut être derrière pour nous enseignants, sur le gaspillage des ressources, sur les besoins réels, ce que nous avons, sur les choix, je l'ai dit, d'aménagement, sur finalement la durabilité. La deuxième idée, c'est que pour aboutir à un aménagement et à une gestion des ressources qui soit durable, même si ce terme est très difficile à définir, on a impérativement besoin, et Jean-Marc Lardot l'a très bien dit, de la science et de la technique. Et il est intéressant de montrer que ceux qui dénoncent la science et la technique au nom de la nature vierge à ne pas dégrader, eh bien, ont quand même besoin de la science et de la technique pour faire des diagnostics, des évaluations, pour mieux connaître l'objet qu'ils veulent protéger. J'insisterai enfin sur le fait que la science et la technique ne peuvent être que convoquées, mais avec bien sûr toutes les nuances qu'on peut apporter à cela, pour envisager ce qui est pour moi et pour nous géographes, je crois, le cœur du développement durable, la question clé du développement durable, c'est-à-dire le devenir de 4 milliards d'humains qui n'ont pas tous, comme on l'a dit, de quoi se nourrir, ou en tout cas qui sont dans des conditions de vie qui ressemblent beaucoup à celles que j'ai évoquées au XVIIIe siècle et parfois même avant, avec le problème de très grande dégradation de l'environnement et notamment de l'environnement de certains quartiers urbains. Cela, et je conclurai tout à fait là-dessus, cela doit conduire finalement à des positions nuancées, discutées, à l'opposé des catéchismes de tous ordres, et j'utilise ce terme à dessein évidemment, emplis de yaka, refuser le progrès technique, la science, etc. Et de yaka qui serait valable pour tout et partout, et vous voyez que là je mets en question une vision des modèles globaux, parce que je crois qu'il faut appliquer des modèles, certes peut-être, mais il faut les appliquer en tenant compte de la culture des populations, de leur spécificité, de leur vision de la nature notamment. Et rappelez-vous que cette vision n'a rien à voir en Europe et au Japon, en Chine ou ailleurs. Cela aussi devrait nous conduire à ne plus considérer les médias en consommateurs, comme si nous étions des consommateurs, mais en véritables citoyens capables de critiquer et d'analyser chaque élément du discours, y compris les chiffres, y compris les modèles, parce que ce ne sont, somme toute, que des constructions et des créations humaines aussi. Merci.